franceinter.fr.
Sébastien Pagot, bonsoir.
Bonsoir à tous. La prison pour les peines de plus d'un an et plus forcément l'incarcération pour les courtes peines. Emmanuel Macron veut des aménagements, axes principaux de la réforme pénale qu'il vient de présenter. Deux Corées, mais une seule table, sommet le mois prochain. Le Nord serait même prêt à parler dénucléarisation. Nous verrons cela. Au sommaire également ce soir, le projet de centre commercial géant Europa City, près de Paris, mal engagé pour des questions d'environnement. Les migrants de Calais, pas tous rassurés d'être nourris sous le contrôle de la police, nous serons sur place. Google et Facebook qui écrasent le marché de la pub sur Internet. Vous allez le faire, le message de Neymar à ses équipiers du PSG ce soir contre le Real en Ligue des Champions. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, nous réformons les institutions. Figurez-vous, moins de députés et de sénateurs, une dose de proportionnel, 3 mandats successifs maximum. C'est ce que propose entre autres Emmanuel Macron dans la réforme des institutions. Les consultations, elles commencent maintenant, les dents grincent. Mais vous, qu'en pensez-vous? Et faut-il que ces réformes soient approuvées par référendum? 01 45 24 7000.
France Inter.
On n'aurait pas imaginé le chef du renseignement sud-coréen dînant à la table de Kim Jong-un il y a encore quelques semaines. Ce dîner a pourtant bien eu lieu hier soir à Pyongyang, une première depuis plus de 10 ans. Et il porte ses fruits. Bonsoir Luc Lemonnier.
Bonsoir.
Le dictateur du Nord reçoit à la maison. Et le voilà qui passe quasiment du statut de danger nucléaire à celui de fréquentable sur la scène internationale.
Oui, on ne sait pas encore quel sera le signe extérieur de détente de ce troisième sommet intercoréen annoncé pour la fin du mois d'avril. Troisième en 20 ans. Mais il y aura un symbole, un petit cadeau comme les fois précédentes. En 2000, les haut-parleurs qui, depuis un demi-siècle, déversaient quotidiennement des insultes en direction du Sud s'étaient brusquement tus. Et en 2007, c'est un train de marchandises reliant les deux Corées qui avait salué l'éphémère réconciliation. On va donc guetter le symbole, mais en attendant, on peut déjà retenir l'incroyable chemin parcouru en quelques mois, des tirs de missiles et des essais nucléaires menaçant toute la région, au pom-pom girl tout sourire, dans les tribunes olympiques, un pas de géant avec une question, est-ce la menace tweeteuse et frénétique de Donald Trump vis-à-vis de Rocketman qui l'a fait plier, ou bien Kim Jong-un estime avoir acquis dorénavant le statut de puissance nucléaire et l'assurance vie qu'elle procure pour consentir à reprendre langue. Quoi qu'il en soit, la détente est exceptionnelle. Un dîner de gala, 4 heures autour d'une table avec l'incontournable sœur, des poignées de main fraternelles, la une de l'organe officiel de presse, les promesses de dénucléariser en échange de la sécurité du régime et puis le rétablissement d'une ligne téléphonique d'urgence avant le sommet du mois prochain, une détente presque atomique.
Luc Lemonnier, commentaire de Donald Trump au réveil sur Twitter. Des progrès sont possibles, les États-Unis s'engageront pleinement, quelle que soit la direction retenue. Ni trêve ni aide humanitaire dans la Ghouta orientale, les frappes du régime syrien se poursuivent sur l'enclave rebelle de l'Est de Damas, au moins 9 morts et 40 blessés aujourd'hui encore, et un secteur repris désormais à 40% par les forces de Bachar el-Assad. Moscou propose une évacuation protégée aux rebelles avec leurs armes, proposition rejetée par les intéressés. Un ancien espion russe, probablement empoisonné dans le sud de l'Angleterre, retrouvé inconscient sur un banc dans un centre commercial, sa fille de 33 ans dans le même état à ses côtés. Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, confirme l'identité de Sergei Skripal et de sa fille Yulia. Ils sont hospitalisés dans un état critique à cause d'une présumée substance toxique.
Question Sébastien, Europa City va-t-il connaître le même sort que Notre-Dame-des-Landes?
Le complexe géant de commerce et de loisirs du nord de Paris est-il condamné avant d'être sorti de terre comme l'aéroport nantais? Il semble compromis d'après la justice. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Elle annule la création de la zone d'aménagement. Impact sur l'environnement important et manque d'informations.
Oui, vu les conséquences potentielles de ce projet sur l'environnement, avec la destruction de 280 hectares de terres agricoles, la population concernée et les autorités auraient dû être mieux informées. Voilà ce que dit le tribunal. Il y a bien eu une enquête publique avec une étude d'impact, mais une étude d'impact visiblement incomplète. Maître Étienne Ambroselli est l'avocat des associations à l'origine de la requête.
Ça nous paraît une décision à la fois excellente et surprenante dans la mesure où pour un projet aussi titanesque, le moindre des choses, c'est que l'étude d'impact environnemental soit irréprochable Il est absolument aberrant de détruire des terres agricoles extrêmement riches alors que vous avez une friche industrielle juste en face qui ne demande qu'à être reconstruite sur elle-même.
Et d'après le tribunal, il manque bien des choses dans cette étude d'impact, notamment sur la qualité de l'air, les émissions de CO2 induites par les déplacements autour de la zone, pas négligeable quand on sait qu'Europa City vise plus de 30 millions de visiteurs par an.
De toute façon, ce type de projet est aberrant en soi. Faire une ville aéroportuaire alors que l'on se prétend des champions de la lutte contre le changement climatique est totalement contradictoire. Donc l'État ne peut pas avoir un double jeu permanent. Et bien à un moment, il va falloir être cohérent dans ses choix. Et dans ce cas-là, le projet Europa City doit évidemment être prohibé pour toujours.
L'avocat veut croire que la préfecture ne fera pas appel, mais ce n'est évidemment pas le cas des porteurs d'Europa City. Ils reconnaissent un contretemps, mais assurent rester confiants. Ils évoquent des choses qui arrivent souvent dans ce genre de projet.
Dossier signé Rosalie Lafarge, merci.
Emmanuel Macron présente sa refondation pénale.
L'objectif est de rendre les peines plus efficaces, de lutter contre la surpopulation carcérale aussi. Près de 70 000 détenus en France pour à peine 60 000 places de prison. Bonsoir Sarah Guibaudeau.
Bonsoir.
Vous êtes à l'école d'administration pénitentiaire d'Agen, où le chef de l'État vient de remettre en cause les courtes peines.
Oui, avec deux mesures fortes annoncées ce soir, les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un mois seront tout simplement proscrites. Les peines inférieures ou égales à six mois devront s'exécuter en dehors de la prison, sauf motivation des juges. Des peines effectuées donc dans des centres de semi-liberté, dans des associations ou sous bracelet électronique. Mais en même temps, le président a longuement insisté sur la nécessaire effectivité des peines. Il veut en finir avec l'hypocrisie collective, je cite, qui fait qu'aujourd'hui, les peines d'emprisonnement jusqu'à 2 ans peuvent être aménagées, transformées après le procès et loin des regards par un juge d'application des peines. Emmanuel Macron qui renvoie ainsi dos à dos les laxistes et les durs.
Il y aurait d'un côté, en quelque sorte, comme souvent d'ailleurs, notre vie politique nous invite à raccourcir les choses. Les laxistes qui voudraient que personne ne soit puni. Et de l'autre, les vrais durs qui seraient pour emprisonner les gens. Quelle que soit parfois l'inefficacité de la dite peine, quelles que soient les mauvaises conditions qui ne permettent de toute façon pas de reprendre ensuite une vie normale, d'éviter la récidive. Je ne crois dans aucune de ces options.
Emmanuel Macron a confirmé la création d'une agence du travail d'intérêt général pour développer ce type de peine. Il veut aussi construire 7000 places de prison sur le quinquennat. Enfin, dans cette école qui forme des surveillants et des conseillers d'insertion et de probation, il a promis des créations de postes pour rendre à la prison son sens moral et social. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, dit-il, mais notre pays en a besoin.
1500 créations de postes de conseillers d'insertion et de probation. Merci Sarah Guibaudeau en direct d'Agen avec Yves Lehors. Lui devrait rester en cellule encore de longues années. Jacques Rançon, le tueur de la gare de Perpignan, jugé pour viol et meurtre 20 ans après. 4 jeunes femmes, 2 en ont réchappé. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
La cour entendait aujourd'hui, Corinne, notamment la famille de Jacques Rançon.
Oui, c'est l'enfance misérable de Jacques Rançon qui prend vie dans la salle de la cour d'assises. D'abord, sous les traits de sa demi-sœur Denise, de 20 ans, son aînée, en visioconférence. Elle a connu son petit frère quand il avait 10 ans. Il était toujours dehors, il traînait dans les bois. Le père, il s'en fichait pas mal. Sa mère le frappait et lui, il rendait les coups. « Oh oui, Jacques a été malheureux, soupire-t-elle. Mais ce qu'il a fait, ça me fait trop mal. Pourquoi des atrocités pareilles? Je ne comprends pas. » Je ne veux plus le voir. Vient ensuite l'instituteur de Jacques Rançon. Francis Roy l'a eu en classe pendant 2 ans. Il se souvient d'un garçon timide, la tête rentrée dans les épaules, de ce jour de sortie scolaire où l'enfant a pour pique-nique une boîte de cassoulet et une cuillère. Un gamin livré à lui-même qui vivait dans une baraque datant de la guerre de 14-18, se souvient l'instituteur.
Dans cette famille-là, tous les enfants avaient été retirés et placés dans des familles d'accueil. Justement parce qu'on présentait une carence éducative. Et lui, pourquoi est-ce que cet enfant est resté dans sa famille? Et ça, on ne l'a jamais compris. Quand vous vous dites que vous avez eu cet enfant comme élève et que peut-être qu'il aurait suffi de dire ou faire autrement pour qu'on n'en arrive pas là, quoi. C'est ce qu'il a fait affreux et impardonnable.
Pour la première fois, l'émotion se lit sur le visage de Jacques Rançon. L'instituteur est bouleversé. Je n'ai pas pensé que le petit garçon que j'ai connu puisse devenir un monstre. Vous n'avez rien à vous reprocher, lui lance le président de la cour d'assises. Vous avez joué votre rôle admirablement.
Corinne Audouin, en direct de Perpignan, merci.
Comment réformer la Constitution, comme promis pendant la campagne?
Édouard Philippe consulte depuis hier soir avant le choix du scénario à l'Élysée, référendum ou pas. La réforme prévoit notamment de réduire d'un quart à un tiers le nombre de parlements parlementaire, une limitation du cumul des mandats consécutifs et l'introduction d'une part de proportionnelle aux législatives. Nicolas Sarkozy faisait le bilan de sa révision de 2008 cet après-midi au Sénat. Laurence Perron, l'ancien président, tente évidemment de peser dans le débat.
1h30, montre en main, Nicolas Sarkozy à match au Parc des Princes ce soir. Et lui, président, c'était déjà un obligado. Cette réunion de retour sur expérience a été organisée avant que l'on connaisse le calendrier des consultations de Matignon. Aussi, pour ne pas froisser Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy a pris le soin de l'appeler ce matin pour lui dire que ses intentions étaient tout à fait pacifiques. Il n'entend pas jouer une réforme contre une autre, même si ses proches, politiquement, n'ont pas exactement les mêmes vues. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, est vent debout contre un projet qui, selon lui, renforce le césarisme, ce sont ces mots d'Emmanuel Macron.
On accepte la diminution du nombre de parlementaires, mais jusqu'à un certain point pour qu'on puisse avoir des parlementaires dans des départements qui sont pauvres en démographie. Donc ça, c'est un vrai risque. Est-ce qu'on va accroître avec cette révision constitutionnelle ou pas la fracture territoriale? Et puis, on a une hyper présidentialisation avec un Parlement qui est quand même très très affaibli, une Assemblée nationale qui est souvent à la botte de l'exécutif, si j'ose dire.
Nicolas Sarkozy est venu ici en président et non en premier opposant. Il était d'ailleurs accompagné de sa femme, Carla Bruni Sarkozy, une manière de jouer la décontraction. Il a toutefois, dans son discours, mis en garde contre la posture politicienne. La Constitution, c'est une affaire d'histoire avec un grand H, pas de politique partisane et d'assénée. Le référendum et la Constitution, ça ne peut pas marcher. Au Sénat, Laurence Perron, France Inter.
On a failli parler de fiasco à Calais depuis que l'État a décidé de reprendre en main la distribution de nourriture aux migrants. Deux personnes étaient ce matin devant les camions mobiles entourés de policiers et de barbelés. Scénario nettement différent cet après-midi. Julie Pietri, moins de policiers et plus de 200 personnes venues chercher à manger, selon la préfecture, sur les plus de 500 migrants présents à Calais, d'après les associations.
Ni café, ni thé, ni tartine. Ce matin, les exilés de Calais n'ont pour la plupart pas pris de petit déjeuner, en tout cas pas ici. Cet après-midi, le repas chaud, ration de viande, légumes, féculents, a convaincu davantage. Et c'était peut-être là le test de la journée, d'autant que des associations comme l'Auberge des migrants ont arrêté de distribuer des repas quotidiens, explique Lohan Torondel, l'un de ses membres.
Il y a des professionnels qui font des distributions, on ne va pas prendre leur place, on les laisse faire.
Dans les sous-bois environnants, beaucoup d'hommes, quelques femmes, disent encore craindre de venir à ces nouvelles distributions. Pas envie d'être filmé ou photographié, et c'est risqué, croit-il savoir. Même si le sous-préfet a promis qu'il s'agissait de nourriture et de rien d'autre, ni contrôle ni arrestation. Je ne veux pas manger ici seul, plaisante ce jeune érythréen. Je vais peut-être ramener du monde ici pour que l'on vienne manger ensemble. C'est important pour nous. Stéphane Duval dirige à Calais la Vie Active, l'association désignée par l'État pour organiser les distributions.
Il y a toujours une forme de défiance et de méfiance dès qu'un nouveau système se met en place. En plus, là, c'est l'État qui reprend la mainmise sur le dispositif, donc forcément, ça doit accentuer un petit peu les inquiétudes. Quand ils auront compris qu'ils ont tout intérêt à venir ici, je pense que ça se fera sans problème.
Avec la préfecture, ils vont encore réfléchir à l'adaptation, l'amélioration du dispositif. À Calais, Julie Pietri, France Inter.
Quand l'autorité de la concurrence s'intéresse à la publicité en ligne.
Elle vient de travailler un an, a vu tous les acteurs du secteur et rend donc son avis aujourd'hui parce que figurez-vous qu'Internet est désormais le premier marché publicitaire en France et dans le monde devant la télévision, la presse et même l'affichage. 12% de croissance l'an dernier. Grâce à quoi? Eh bien, à toutes les infos qu'on laisse partout sans forcément s'en rendre compte. Bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir.
Cet or noir du 21e siècle, c'est votre expression, est exploité par des tas de nouveaux acteurs, mais deux géants écrasent tout.
Google et Facebook, ça ne vous surprend pas. Hein. On leur dit tout, il faut dire. La présidente de l'autorité de la concurrence, Isabelle De Silva, confirme. Ce sont eux qui ont les données les plus fines et les technologies pour les exploiter.
Facebook a l'avantage d'avoir beaucoup de données de très forte valeur grâce à son réseau social notamment. Google, de son côté, a une stratégie un peu différente. Il a aussi des données qui ont beaucoup de valeur grâce au moteur de recherche. Et puis, il a la particularité d'être très présent sur toute la chaîne de l'écosystème de la publicité en ligne en tant qu'intermédiaire technique.
Face à cette position écrasante, c'est l'autorité de la concurrence qui le dit. Les plus petits acteurs ont fait remonter inquiétudes et plaintes. Il faut se rendre compte, un clic sur un site internet pour acheter une bouilloire, et c'est une myriade d'acteurs qui entrent en action pour vous proposer de la publicité ciblée. Une vraie guerre commerciale et forcément la méfiance du consommateur.
Il y a une vraie demande de transparence plus renforcée. On sait que la loi française a été un peu moteur en la matière avec la loi Le Maire qui a posé le principe de la loyauté des plateformes. Mais les internautes se demandent parfois si l'échange est parfaitement équitable entre l'utilisation qui est faite de leurs données et le bénéfice qu'ils en retirent.
Un marché à plus de 4 milliards d'euros aujourd'hui, complexe, opaque, reconnaît l'autorité de la concurrence qui promet d'enquêter dans les mois qui viennent pour traquer les pratiques anticoncurrentielles.
Attention si vous achetez une bouilloire. Merci Hélène Fili. Un dossier est en ligne sur franceinter.fr pour aller plus loin. De l'internet à la télé, deuxième marché pour la publicité. Le petit écran est en crise tellement que le CSA propose de servir de médiateur dans le conflit entre TF1 et Canal+. Canal ne diffuse plus la première chaîne sur sa box parce que la Une veut faire payer les diffuseurs. Bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir Sébastien.
Free et Orange s'apprêtent à faire pareil.
Alors oui, l'accord a été passé sans difficulté avec SFR et Bouygues Télécom, mais ça bloque avec les trois autres opérateurs. Orange a déjà coupé le 2 février le replay MyTF1 et Stéphane Richard menace désormais de suspendre la diffusion du live d'ici une semaine. Même menace du côté de Free. Par le biais de cette rémunération, TF1 espérait récupérer au total 100 millions d'euros. Mais pour l'instant, bien le bras de fer commence plutôt à lui coûter une certaine baisse d'audience. C'est un peu difficile d'ailleurs de chiffrer les pertes par opérateur. Selon Canal+, les sommes demandées par TF1 seraient de l'ordre de 20 à 40 millions, soit l'équivalent de l'investissement engagé par exemple pour financer des séries de grande audience, comme Le Baron Noir ou Le Bureau des Légendes, inacceptable du point de vue de Canal. Quant au réseau Orange, la perte pour TF1 serait de son côté substantielle. Orange représente en effet plus de 20% de l'audience de TF1. Chacun renvoie donc l'autre pour l'instant à son intransigeance, mais il reste à TF1 un levier des plus importants. La prochaine Coupe du Monde de football en Russie en juin prochain, TF1 a les droits et ne pas diffuser les matchs serait une sacrée perte cette fois pour les opérateurs.
C'est peut-être le foot qui va tout régler. Merci Jacqueline Pétrose. Un nouvel appel à la grève chez Air France le 23 mars, un mois après le mouvement qui a conduit la compagnie à annuler un quart des vols. Grève pour les salaires à l'appel de 11 syndicats. Lui fait son entrée dans le top 5 des plus grandes fortunes mondiales, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, quatrième avec plus de 58 milliards d'euros derrière Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett. La fille de Liliane Bettencourt, décédée en septembre, entre au deuxième rang du classement français avec un matelas de 34 milliards d'euros.
Allez, c'est la lutte finale, que dis-je, le grand soir pour le PSG en Ligue des Champions.
Les Parisiens retrouvent le Real Madrid en huitième de finale retour après la défaite 3-1 à l'aller, après surtout le feuilleton du pied de Neymar, finalement parti se faire opérer au Brésil, mais qui soutient ses copains dans une vidéo. Vous allez le faire, dit le numéro 10. Bref, le club de la capitale est seul sans sa star, avec un 2-0 à sortir pour passer en quart, ou 3 buts de plus. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Sébastien.
C'est mission impossible ?
C'est pas mission impossible, mais c'est mission extrêmement compliquée. Parce qu'en face, oui, c'est le double tenant du titre et que Paris a quand même deux buts à remonter minimum. Et il ne faudra pas en prendre. Et c'est ça peut-être le problème. Parce que Paris en est capable. Paris l'a déjà fait l'an dernier, on se souvient, ici même, en huitième de finale face au Barça. Ils en avaient passé quatre aux Catalans. Donc Paris est capable d'un tel exploit, mais derrière, bah, il ne faut pas prendre de but face à ce Real qui est double tenant du titre et qui joue lui aussi quelque part, mais encore plus sa saison face au PSG sur cette Ligue des Champions, parce que c'est le seul trophée que les Madrilènes peuvent encore remporter. Alors PSG, techniquement, si on parle statistiques, ils ont un petit peu moins d'une chance sur quatre de passer ce soir, de réaliser l'exploit, mais ils l'ont déjà fait, et notamment face au Real, c'était il y a 25 ans, c'était pas la même Coupe d'Europe, c'était UEFA. La Coupe de l'UEFA, mais on se souvient évidemment de cette tête incroyable d'Antoine Comboiré qui qualifiait le Paris Saint-Germain pour la suite de l'aventure, et c'était le même scénario, la même configuration avec cette défaite 3-1 au match aller. Donc pas impossible, complexe, mais ils peuvent y croire.
Bon, Xavier Monferrand, merci. En direct du Parc des Princes, PSG Real Madrid, c'est le coup d'envoi à 20h45, avec du beau monde dans les tribunes, dans la corbeille, on dit, au Parc des Princes, notamment David Beckham, qui a joué au Real et à Paris, et qui prédit un match passionnant.
Eh ben écoutez, merci beaucoup, mais absolument. On en reparlera demain, d'ailleurs, demain. Sébastien Pau.